Salut à tous et bienvenue sur Archéociné, le podcast qui déterre les pépites du grand écran. Ce soir, il y a Blood qui nous a rejoint. Comment ça va, Blood ?
Salut à tous, impeccable.
Et aujourd'hui, on va voir du singe. Allez, du singe. On met l'intro. Donc, comme vous l'avez reconnu, ou pas, parce que c'est la musique de La planète des singes, le film de 1968. En fait, le film commence pas comme ça. Il commence directement par une intro du carnet de bord enregistré avant. On en parlera un petit peu plus, un petit peu plus loin, parce que je le mettrai comme extrait. Mais là, j'ai mis la musique qui se trouve en fait après. Voilà, donc La planète des singes, donc Planet of the Apes, qui est un film américain réalisé par Franklin J. Scheffner, sorti en 1968. Et en fait, La planète des singes, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un jour, il y a un engin spatial qui s'écrase en l'année 3978 sur une planète inconnue. Et dans cet engin spatial, il y a trois astronautes, Taylor, Landon et Dodge, qui découvrent donc que sur cette planète vivent des hommes primitifs et qui sont placés sous le joug de singes très évolués. Donc, pourquoi ? C'est la question qu'ils vont se poser tout au long du film. Où sont-ils ? Et quand ? Et Blood, je te laisse continuer la présentation de ce film.
Donc, c'est un scénario de Michael Wilson et Rod Serling, d'après le roman éponyme donc de Pierre Boulle. La musique est de Jerry Goldsmith. Alors, au décor, il y a Walter M. Scott et Norman Rockett. Au costume, Morton Hack. Au maquillage, John Chambers, Ben Nye, je ne sais pas s'il faut dire Nye ou Nye, et Dan Stripek.
Et à la photographie, Léon Shamrock. Et ensuite, donc, on a une durée de film de 1h52, et le film est donc sorti en 68. Voilà, et puis après, à la distribution du coup, on retrouve le grand Charlton Heston, hein, qui joue le capitaine George Taylor. On a aussi Roddy McDowall qui joue le docteur Cornelius, Kim Hunter qui est le docteur Zira, Maurice Evans le docteur Zaius, James Whitmore le président de l'Assemblée, James Daly qui est le docteur Honorius et Linda Harrison Nova. Il y en a pas mal d'autres aussi, mais bon, après ça c'est les moins importants. Donc, au niveau de Charlton Heston et La planète des singes, hein, donc Charlton Heston, c'est le héros majeur inoubliable de la saga de La planète des singes, et il a fait une très courte apparition dans le second volet, parce qu'on le verra un petit peu plus loin, c'est une saga avec plusieurs films. Le second volet qui est intitulé Le secret de La planète des singes, et parce qu'il était aussi fermement opposé à une suite, mais il accepta pourtant de tourner parce qu'il était fidèle envers le producteur de Richard Desanuc. Voilà. Et puis il a fait une petite apparition dans le remake La planète des singes de Tim Burton en 2001, où il incarne le père mourant de Tim Roth. Voilà. Alors, on va s'écouter un premier petit extrait après tout ça.
Et ceci termine mon dernier rapport avant notre mise en pilotage automatique entre les mains des ordinateurs. J'ai bordé mon équipage, pour le long sommeil qui doit nous conduire jusqu'à la constellation d'Orion et je vais les rejoindre bientôt. Dans moins d'une heure, nous serons partis depuis 6 mois de Cap Kennedy. Sur la Terre, ils sont en 2673 et sur le vaisseau, nous sommes en 1972. D'après la théorie du docteur Aslein, dans un véhicule voyageant presque à la vitesse de la lumière, la Terre a vieilli de 700 ans depuis que nous l'avons quittée. Tandis que nous n'avons vieilli que de 6 mois. Je veux bien le croire. Ce qui paraît probable, en tout cas, c'est que les hommes qui nous ont fait partir sont morts depuis longtemps. Les générations nouvelles qui les remplacent doivent être d'une espèce différente. Supérieure, j'espère. Je laisse le 20e siècle sans regret.
Voilà, donc dans cet extrait-là, on entend clairement que... Et ça, c'est une théorie qu'on n'a jamais pu démontrer. Si on voyage à la vitesse de la lumière, le temps s'écoule moins vite dans le vaisseau, alors qu'il s'écoule beaucoup plus vite sur la planète d'où on est parti. Et donc, forcément, la planète, suivant la durée du voyage, les gens vieillissent et disparaissent forcément plus vite que les occupants du vaisseau. On n'a jamais pu prouver pour le moment cette théorie. Voilà, et puis sinon, Blaud, tu vas nous parler un petit peu plus du développement de ce film.
Alors oui, donc le film est adapté, donc comme je l'ai dit juste avant, du roman de Pierre Boulle. L'origine du film remonte cependant à la série télévisée La Quatrième Dimension, d'un épisode qui est donc de la saison 1, La Flèche dans le Ciel, diffusée en 60. Donc ça a servi de base pour l'intrigue.
D'accord, et puis parce que il y a un petit truc au niveau de la quatrième dimension.
Parce que un des deux scénaristes, donc Rod Serling, c'est le créateur de la quatrième dimension.
Voilà. Et puis sinon Charlton Heston a eu une extinction de voix d'un seul coup au début du film, au cours du tournage, parce qu'il fut touché par la grippe, et il a eu une terrible extinction de voix. Et en fait, c'est passé inaperçu parce que le scénario est fait de telle sorte que, grosso modo, pendant toute la première demi-heure du film, il ne parle pas. Et donc, en fait, ça s'est avéré salutaire parce que dès lors qu'il a commencé à prononcer sa première réplique, quand il dit, quand il veut se faire prendre par les gorilles, on l'écoutera aussi cet extrait-là. Et en fait, vu qu'il vient de sortir de sa grippe, il a carrément la voix avec un ton éraillé. Est-ce que c'est ce que souhaitait le réalisateur, justement, pour cette première réplique? Donc, ça tombait pile poil. Et après, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la petite distrib, au niveau de la distribution des rôles?
Alors, Edward G. Robinson donc, a été le premier choix pour le rôle de Zaius. Puis après le scène test, il dut refuser le rôle car il était cardiaque. Alors, il ne croyait pas qu'il pourrait supporter les nombreuses heures de maquillage et de démaquillage. Ouais, c'est pour ça qu'il a refusé, quoi. Mmh. Et l'actrice Ingrid Bergman a été aussi approchée donc pour jouer Zira, mais elle a refusé. Il y a James Brolin aussi, donc le père de Joss, qui avait participé.
Joss entre parenthèses qui
Thanos.
Thanos et puis
le frère aîné dans les Goonies.
Ouais, et puis aussi Bishop des X-Men. Enfin, avec
dans Deadpool.
Ouais. Donc vas-y, je te laisse poursuivre.
C'est reparti. Alors, il avait aussi participé au test filmé pour convaincre les producteurs. Donc pour le rôle de Cornelius, finalement, ça a été donné à Roddy McDowall. McDowall, pardon. Linda Harrison, elle incarna Nova, a été également participé au test filmé où elle interprétait Zira. Mmh.
Et puis aussi on a le producteur Arthur Jacobs qui était un ancien publicitaire, et il eut l'idée d'inviter l'influent journaliste chroniqueur James Bacon pour lui offrir des petits caméos dans plusieurs films de la saga. Et il est non crédité au générique. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que l'actrice Diane Stanley interprète l'astronaute Stewart, alors qu'à l'origine, le personnage était un homme dans le pré-scénario de Pierre Boulle. On reviendra un petit peu plus tard sur Pierre Boulle, le roman, etc. Et puis, on a Linda Harrison, dont on vient de parler, en sauvageonne inoubliable, hein, l'interprète l'humaine Nova. Et elle a marqué son empreinte dans La planète des singes, et elle joue également dans Le secret de la planète des singes. Et pourtant, elle fait aucun dialogue, hein, parce que les humains ne parlent pas dans le film, il n'y a que les singes. Et puis, la comédienne, elle était Miss Maryland en 65, et puis elle est également la femme du producteur, Richard Zanuck. Et voilà, après elle a abandonné sa carrière dans le milieu des années 70. Et puis elle revint vers Hollywood au cours des années 80 avec un petit rôle dans Cocoon et Cocoon Le Retour. Voilà. Et puis elle a fait même un petit clin d'œil dans le remake de Tim Burton, La planète des singes, où elle fait aussi une prisonnière humaine mise en cage. Sinon, à propos du tournage, t'as peut-être des petites bricoles à nous raconter.
Alors, le tournage du film, donc, il s'est déroulé du 21 mai 67 au 10 août 67.
Rapide.
Principalement en Californie. Ah oui, c'est rapide, là. C'est-à-dire qu'en plus, c'est bien, là, printemps-été, c'est peut-être justement pour que ça fasse mieux pour l'ambiance du film, je pense.
Ouais, certainement. Donc, tournage principalement en Californie.
Ouais, un peu dans l'Utah aussi.
Mm-hmm.
Et en Arizona.
Ok. Et puis la scène où la fusée s'écrase a été tournée au lac Powell. C'est un lac artificiel situé à la frontière de l'Utah et de l'Arizona. C'est un lac artificiel parce que il s'est fait avec la construction d'un barrage sur le fleuve Colorado. C'est tout. Oui. Au niveau du tournage. Au niveau du box-office, qu'est-ce qu'on peut dire? Que le film il a rapporté 22 millions de dollars pour un budget de 5,8 millions.
Cash.
Ouais. Au niveau récompense, qu'est-ce que tu peux nous dire, Blood?
Alors, Oscar 69, donc Oscar d'honneur pour John Chambers, donc pour son exceptionnelle performance en maquillage. C'est sûr que quand on voit le maquillage...
Ouais, pour l'époque, ouais. Mm. Super bien fait.
Et aussi Genesis Award en 96 pour meilleur film classique.
Où sommes-nous? Est-ce que vous en avez une idée, capitaine? Nous sommes à environ 320 années-lumière de la Terre, sur une planète sans nom, en orbite autour d'une étoile de la constellation d'Orion. C'est là que nous devions arriver. Le soleil doit être Bellatrix.
Non, la lumière est trop blanche.
Vous n'avez pas eu le temps de lire les contrôles de position. Alors comment savez-vous que nous avons atteint notre but? Notre atterrissage ne s'est pas passé comme il était prévu. Nous ne devions pas nous poser sur l'eau.
La question n'est pas tellement de savoir où nous sommes, de savoir quand nous sommes.
Quelle importance. Nous avons dormi pendant plus d'un an. Essayons maintenant de rattraper le temps perdu.
Ouais, donc justement, l'équipage se demande sur quelle planète ils ont bien pu atterrir, et par rapport à la durée de leur voyage, ils se demandent bien où ils sont. Allez, au niveau maquillage, parce que là il y a des choses à raconter. Le maquillage des singes fut créé par John Chambers, hein, comme tu l'as dit précédemment. Il disposait d'une équipe de 80 personnes. Et avant le film, il avait passé de nombreuses heures au zoo de Los Angeles à étudier l'expression faciale des singes pour faire des masques plus réalistes. Et les acteurs, faisant qui faisaient les singes, étaient obligés de garder leur maquillage pendant les pauses parce que cela aurait pris trop de temps pour les remaquiller. Donc, vu qu'il faisait assez chaud, ça ne devait pas être très agréable à supporter. Et puis, bah, Roddy McDowall, qui aimait beaucoup son maquillage de singe, lui, retournait chez lui, ainsi maquillé, et choquait parfois certains conducteurs sur l'autoroute. Carrément. Ça devait être folklore en arrivant chez lui.
Ouais.
Et puis, bah, on avait des, c'était pour l'époque, hein, on est en 68, c'est des maquillages révolutionnaires, hein, parce que John Chambers est assurément l'homme sans qui la planète des singes n'aurait pu voir le jour. C'est vrai qu'on n'aurait pas eu ces maquillages-là, le film n'aurait pas eu ce succès. C'est un maquilleur de génie qui a mis au point une technique et une substance spéciale à base de mousse de caoutchouc pour transformer les comédiens en singes les plus réalistes, technique qui lui valut un Oscar. Et le maquillage nécessitait de 3 à 6 heures de maquillage et une de démaquillage. Et s'avérait dur à porter pour les acteurs. En effet, ces derniers devait rester dans des caravanes réfrigérées entre les prises pour ne pas abîmer leurs prothèses et ne pouvaient fumer ou manger qu'avec difficulté.
Ouais,
et que certaines séquences mettant en scène plus de 200 singes, la production eut parfois recours à près de 80 maquilleurs. Oui, parce que ça faisait du figurant à maquiller quand même.
Ah là, ouais.
Et puis bon, il y a une petite... un petit truc sur la nudité, qu'est-ce que tu peux nous dire, Blood?
Alors, dans le script original, les femmes avaient la poitrine nue, mais la Fox a vite mis son veto.
Ouais, censure.
Et c'est dans ce film que Charlton Heston tourne nu pour la première fois.
Ouais. Et puis bon, après, il y a, comme je l'ai abordé tout à l'heure, hein, à l'origine, La planète des singes, c'est un roman écrit par Pierre Boulle. Pierre Boulle, c'est un auteur français. Et bon, il y a des petites différences entre le film et le roman. On va les passer en revue rapidement. Normalement, le roman débute par Jean et Phyllis qui découvrent lors d'un voyage interplanétaire un manuscrit écrit par le journaliste Ulysse Mérou. Et dans le film, bah, c'est le capitaine Taylor en compagnie de deux astronautes qui sont partis à la conquête de l'espace à bord d'un vaisseau spatial qui atterrit sur une planète inconnue. Bon, déjà, une petite différence au niveau du début. Le personnage du journaliste Ulysse dans le roman est transposé en astronaute George Taylor dans le film. Et par ailleurs, dans le film, Zira devient la psychanalyste du comportement animal. Dans le roman, les hommes primitifs sont nus. Dans le roman, toujours, les singes sont plus avancés technologiquement que dans le film. Ils ont des automobiles, des téléviseurs, des avions. Et la société simienne est plus primitive dans le film à cause d'un budget plus restreint. Et qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Certains personnages importants du roman ont été supprimés. Par exemple, le personnage de Hector, le chimpanzé qui a accompagné l'équipage lors de son expédition, les expériences répétées sur les hommes, et plus particulièrement sur Ulysse. Et pour finir, on a à la fin du film Taylor et Nova qui se sauvent à cheval sur une plage. Taylor découvre les restes de la Statue de la Liberté. Et bon là, c'est gros spoil, attention, faut pas écouter si vous voulez. Hein. Et puis bah, Taylor, il comprend que bah, la planète des singes est en réalité la Terre. Alors que dans le roman, Ulysse, Nova et leur bébé Sirius quittent la planète Soror à bord de la chaloupe qui les conduit à leur vaisseau resté dans l'espace. Et à leur retour sur Terre, ils découvrent qu'elle est habitée par des singes évolués. Et d'ailleurs, cette fin sera transposée d'une certaine façon dans le remake de Tim Burton en 2001. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire maintenant sur le réalisateur Franklin Schaffner?
Alors, donc, ce réalisateur et producteur américain est né en 1920 à Tokyo et il est mort en 89 à Santa Monica. Il a réalisé donc La planète des singes, bien sûr, mais aussi Patoun et Papillon. Il a fait 14 films de 63 à 89 et donc La planète des singes, c'était son cinquième.
Mmh. Et puis parmi ses meilleurs films, qu'est-ce qu'on peut retrouver entre autres?
Alors donc Patton, donc comme je viens de le dire là en 70 avec George C. Scott, Carl Malden, Michael Bates, Y a Papillon, donc, en 73, avec Steve McQueen et Dustin Hoffman.
Un superbe film.
En plus, c'est une histoire vraie.
En plus.
Ces garçons qui venaient du Brésil, en 78, avec Gregory Peck, Laurence Olivier et James Mason.
Et puis, c'est tout.
Voilà.
Ouais, pour ces films plus représentatifs, on va s'écouter un petit troisième extrait.
Taylor, pourquoi t'es-tu enfui ?
Sûreté nationale.
Je suis responsable de cet homme.
Plus maintenant, madame. Il est entre les mains du ministère de la Science.
Je t'interdis de mettre tes pattes sur moi !
Et oui, c'est dans cet extrait-là que je disais tout à l'heure, pardon, où il dit, avec la voix un peu éraillée, « Je t'interdis de mettre tes sales pattes sur moi. » Et donc là, tout le monde se trouve étonné qu'un humain puisse parler. Et puis, on a aussi Jerry Goldsmith, qui est un grand compositeur pour la musique. Vas-y, je te laisse poursuivre, Blaude.
Alors, donc, il était né Gerald K. Goldsmith, donc il était né en 10 février 29 à Los Angeles, il est mort le 21 juillet 2004 à Beverly Hills, et donc il est également, il a composé plein de superbes musiques, quoi. Il a fait des musiques de films entre 57 et 2003, et des séries de 54 à 95.
Et puis, il a eu plusieurs récompenses et nominations.
Oui. Alors, il a eu 18 nominations aux Oscars meilleure musique. Et donc, ce qui en fait un des compositeurs les plus nommés dans cette catégorie. Ainsi que 9 nominations aux Golden Globes. Il a remporté 4 Emmy Awards.
Ouais, et puis donc, du coup, dans ses compositions de musique de film les meilleures, quoi. Qu'est-ce qu'on peut retrouver?
Oui, par rapport au film. Alors, j'avais repéré donc La planète des singes. Il y a La malédiction, bon film d'horreur, en 76. La grande attaque du train d'or, en 79. Alien, en 79. Et pour pas changer, toujours en 79, il y a Star Trek aussi.
Mm-hmm.
Alors, nous avons Poltergeist, en 82. Rambo en 82, La quatrième dimension, le film en 83, Gremlins en 84, ainsi que Supergirl et Runaway l'évadé du futur, Rambo 2 en 85, L'aventure intérieure en 87, Total Recall en 90, Basic Instinct en 92, Elle est Confidential en 97, La momie en 99.
Et puis Papillon et Patton aussi.
Papillon et Patton, pardon. Et Chinatown aussi.
Basic Instinct aussi, je crois. Aussi.
Oui, je l'ai dit.
Donc, pas mal de... Toutes ces musiques, tous ces films-là, la musique, c'est lui. Et puis, on a Leon Shamroy, qui est donc le directeur de la photographie. Et lui, il est de 1901. Il est né en 1901, plutôt. Il nous a quittés en 74 et il était directeur de la photographie entre 1926 et 60. Voilà, et puis on va continuer sur les acteurs de ce film-là, où on retrouve, on va commencer par Charlton Heston. Hein. Charlton Heston, lui, il est né John... Charlton Carter, dit donc Charlton Heston, il est né en 1923 et il nous a quittés à 84 ans en 2008. Et lui, c'est devenu une légende du cinéma à la suite de sa prestation dans Ben Hur. On va voir un petit peu plus tard les meilleurs films que je trouve qu'il ait tourné, quoi. Donc on le retrouve ce qu'il l'a
fait connaître, si on peut dire.
Ouais,
ce qu'il l'a fait connaître.
Donc c'est Ben Hur, pour ce film-là, il obtient l'Oscar du meilleur acteur. Et puis, il est l'un des symboles du cinéma des années 60, Il a associé son nom aux plus grandes superproductions de Hollywood, telles que les Dix Commandements, le Cid ou les 55 jours de Pékin, et avant de s'illustrer dans des films d'anticipation dont les plus connus sont La Planète des Singes, Le Survivant et Le Soleil Vert. Il a également été l'un des pionniers du film Catastrophe avec 747 en péril et Tremblement de terre. Et de par son impressionnante carrure et son visage dur, Charlton Heston fut l'interprète idéal tout au long de sa vie de personnage viril et la plupart du temps honnête et bon. Voilà donc les films que je viens de passer en revue là, on les fera lors d'épisodes d'Archéociné. Il a tourné des films donc de 1941 à 2003, et puis bah on retrouve ses meilleurs films. On a Sous le plus grand chapiteau du monde en 52, qui est une comédie dramatique, avec Betty Hutton, Cornel Wilde, Gloria Graham. On a Les Dix Commandements en 56, qui est un péplum, avec Yul Brynner, Anne Baxter, Edward G. Robinson et Yvonne DeCarlo. On a La Soif du Mal en 58, qui est un film policier avec Orson Welles, Janet Leigh et Marlène Dietrich. On a Ben-Hur, dont je venais parler précédemment, en 59, qui est un péplum avec Charlton Heston, bien sûr, Stephen Boyd et Anna Arendt. On a Le Cid en 61, qui est un film historique épique avec Sophia Loren, Ralph Vallon et Geneviève Page. On a Les 55 jours de Pékin en 63, un film historique avec Ava Gardner, David Niven. On a Major Dundee en 65 et on a Soleil Vert en 73, qui est un film de science-fiction avec Leigh Taylor Young, Edward G. Robinson et Chuck Connors. On va s'écouter un petit extrait avant de te laisser continuer avec le reste des acteurs.
Mais qu'est-ce que vous faites ?
J'essaie de recréer l'image d'un être mort il y a 2000 ans. Vous dites que ces objets ont été trouvés au même niveau que la poupée. Celui qui habitait ici n'était pas en bonne santé. Il avait de fausses dents et des lunettes. Il souffrait de troubles cardiaques. On l'a opéré du cœur et on lui a mis cette valvule artificielle. Je ne peux pas dire que c'était un homme comme ceux qui habitent la Terre, mais il devait être très proche de nous. Il avait les mêmes faiblesses. C'était un animal nu et désarmé. Mais il était là bien avant vous. Et il semblait plus intelligent que vous.
Grotesque, vous dites n'importe quoi. Moi aussi, je peux étudier ces objets, mais je le ferai d'une façon très différente. Il est certain que j'arriverai à des conclusions très différentes des vôtres. De toute façon, ce serait des hypothèses, non des preuves.
Docteur Zaius, est-ce qu'un singe fabriquerait une poupée humaine qui dit « maman » ?
Et oui, donc Taylor, les singes l'ont emmené là où ils font des fouilles archéologiques et surprise, il y a une poupée qui dit maman et des vestiges qui ressemblent fortement à ce qu'on pourrait utiliser chez nous. Voilà, je te laisse poursuivre, Blood, avec le reste des acteurs, avec Roddy McDowall.
Roddy McDowall, donc né Roderick Andrew Anthony Jude McDowall, donc né en septembre 28 et il est mort en octobre 98. Donc lui c'était un acteur, producteur, réalisateur britannique. Donc, il a fait des films de 1938 à 1998. Donc, un petit condensé de ses plus fameux films. Il y a Cléopâtre. En 1963, c'est un péplum avec Elizabeth Taylor, Richard Burton, Rex Harrison. Et puis il y a Funny Lady en 75 avec Barbara Streisand, James Caan et Omar Sharif. Mais il reste surtout connu pour les rôles de Cornelius dans La Planète des Singes, de César, fils de Cornelius et de Zira, dans les suites cinématographiques et de Galen dans la série du même nom. Il dut cependant refuser de retenir le rôle de Cornelius dans Le Secret de la Planète des Singes, car il fut pris sur un autre film. Okay, c'est sûr que s'il est sur un autre film, il ne peut pas être sur celui-là. Il est apparu également dans d'autres productions à succès, telles que Le Jour le plus long en 62, Cléopâtre en 63, et il a joué aussi avec Elizabeth Taylor, vu qu'elle est en Cléopâtre, et Richard Burton. Dans L'aventure du Poséidon en 72, avec Gene Hackman, ou encore dans Meurtre au soleil en 82, ça c'est avec Hercule Poirot. Il a aussi joué à la télévision dans bon nombre de séries comme Batman, Columbo et Code Quantum. Ensuite, nous avons Kim Hunter, donc de son vrai nom Janet Cole, c'était donc une actrice américaine, née en novembre 1922. Et morte le 11 septembre 2002 à New York. Donc, elle est connue pour son rôle donc de Stella Kowalski dans Un tramway nommé Désir, et pour celui donc du docteur Zira dans la série de films La Planète des Singes. Et donc, elle a fait des films de 1943 jusqu'à 2000. Un tramway nommé Désir, donc en 51, c'est un mélodrame avec Vivienne Leigh, Marlo Brando, Kim Hunter et Karl Malden.
Ouais, et puis pour finir, on a Maurice Evans. Maurice Evans, lui, il est né en juin 1901. Il nous a quittés en mars 89. C'est un acteur britannique et à l'origine, il s'est consacré au répertoire shakespearien et il acquiert la popularité en jouant Hutch dans Rosemary Babies. Et surtout le docteur Zaius dans La Planète des Singes, et aussi pour avoir incarné le rôle du père de Samantha Stevens dans la série télévisée Ma sorcière bien-aimée. Voilà, il a tourné des films de 1929 à 83. Voilà, puis après la Planète des Singes, hein, c'est une grosse franchise maintenant, puisque il y a pas mal de films. Hein. On a commencé par La Planète des Singes en 68, mais après il y a eu toutes ces suites. Avant d'avoir les préquelles récentes. Hein, donc en 70, on a Le Secret de la Planète des Singes. En 71, on a Les Évadés de la Planète des Singes. En 72, on a La Conquête de la Planète des Singes. Et en 73, on a La Bataille de la Planète des Singes. Pour retrouver après, en 2001, un remake de Tim Burton, La Planète des Singes. Et puis, les préquelles qu'on connaît, hein. En 2011, La Planète des Singes, Les Origines. En 2014, La Planète des Singes, L'Affrontement. Et en 2017, La Planète des Singes, Suprématie. Voilà. Et on a également une série qui a été tournée, une série de 14 épisodes, de 47 minutes, en 74. Et puis, comme je disais tout à l'heure, L'Origine, à la base, c'est un roman écrit par Pierre Boulle. Et lui, Pierre Boulle, il est de 1912, il nous a quittés en 94. C'est un écrivain français et il a écrit également, il est l'auteur du Pont de la rivière Kouai, qui est un superbe film aussi, qu'on verra également, je pense, dans Archéociné. Voilà, et puis maintenant on va passer à ce qu'on a pensé du film. Vas-y, je te laisse commencer, Blaud.
Moi, franchement, ce que j'aime bien dans le film, c'est l'ambiance quand même qui est assez, pas comme si t'étais emprisonné, quoi, mais presque, tu vois, ils peuvent pas parler,
ouais.
du fait qu'ils voient que les singes vont te taper si tu te mets à parler, quoi.
Ouais, c'est vrai qu'il y a une oppression, ouais, c'est sûr.
Ouais, c'est le mot que je cherchais.
Ah, puis c'est un peu un régime totalitariste, quoi. Ils sont dans une dictature, hein. Y a pas photo, hein.
Puis c'est surtout à la fin du film, mais bon, ça, si on veut pas.
Ah oui, non, mais c'est sûr. Ouais, non, mais moi, quand je l'avais vu, gamin, c'est vrai que tu comprenais pas trop. Tu fais, mais qu'est-ce qui se passe? Sur quelle planète ils ont débarqué? Les singes parlent. Et puis, ils ont l'air beaucoup plus avancés que les humains. Les humains parlent pas, ils sont traités comme du bétail. Voilà, ils sont capturés pour être étudiés. Et puis, bah, après, en ayant revu le film plus tard, en ayant lu le roman, bah, on comprend plein de choses. Et puis, bah, au final, bah, on va pas dévoiler la fin, ah, même non. Si beaucoup d'auditeurs, je pense, ont déjà vu le film, mais bah, on se rend compte qu'en fait, ouais, quelque part, on a tourné en rond, quoi. Mais les suites aussi sont pas mal. Alors bon, il y a des suites
moyennes, enfin pas moyennes.
Il y a des suites, il y en a qui sont moyens, mais
je les ai pas vus autant de fois aussi, donc.
Ouais, mais quand on regarde donc on est à combien au début, les 5 premiers films, on se trouve dans la théorie d'une boucle temporelle. Parce que des fois, il se passe des choses, et en fait, on est typiquement dans une boucle, on rentre dans une boucle temporelle. Parce que après, bon, on va pas raconter ici les films suivants, mais voilà. Donc ça, mais c'est de la bonne science-fiction. Il y a du suspense, de l'action, et puis à la fin, le twist, il est carrément génial, je trouve.
Ah, à la fin, c'est top, hein.
Ouais. Et ben voilà, un nouvel épisode d'Archéo Ciné bouclé.
D'ailleurs, faut voir ce film-là avant d'avoir vu La folle histoire de l'espace.
Pourquoi tu dis ça?
Ben parce que, comme à la fin, tu sais, quand ils se retrouvent... oh non, les Spaceballs. Tu sais, bien, ça fait pareil sur la plage, quoi.
Ah oui, mais bon, c'est vrai que... La folle histoire de l'espace ou Spaceball, c'est un condensé d'une satire de plusieurs films de science-fiction, malgré que la ligne principale soit quand même Star Wars.
Enfin, c'est juste pour dire qu'il faut voir donc La planète des singes.
Ouais, ouais. Et puis, bah, voilà, bah, on va se quitter là-dessus, après avoir écouté le générique de fin. Et puis, bah, comme d'habitude, hein, vous pouvez nous retrouver donc sur... YouTube, les plateformes de téléchargement de podcasts, Deezer, Spotify, et puis bah aussi vous pouvez laisser vos généreux dons sur Tipeee, PayPal. Vous trouverez toutes les coordonnées sur le blog. Et bah voilà, on va se quitter là-dessus.
Eh bien, alors, on va vous dire bon film
et à bientôt.
Salut.
Ciao.